Si vous en avez une, vous pouvez l'ouvrir. Dans le deuxième livre des rois. Deux rois au chapitre 6. Je vais reprendre un texte que j'ai lu mercredi soir à la réunion de prière. On lit les versets 15 à 17. Trois versets dans le deuxième livre des rois, chapitre 6, verset 15. Donc c'est un petit peu l'histoire d'Israël, l'histoire d'Élisée, et puis l'histoire d'un siège militaire, un peuple connu déjà à l'époque, les Syriens, qui assiège Israël. Et il nous est dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Je ne sais pas s'il faisait aussi beau qu'aujourd'hui. Mais en tous les cas, ça l'a un petit peu choqué. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » C'est comme si vous aviez des tanks, des automitrailleuses juste devant chez vous, quand vous vous levez le matin. Donc c'est un peu difficile. Élisée, il répondit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux, de chars de feu, autour d'Élisée. Je crois qu'il y a quelques années, quelqu'un disait, le pape, combien de divisions? Et Dieu, combien de divisions? Mais il y en a beaucoup qu'on ne voit pas. Je pense que ça a été un choc pour ce serviteur, cet homme, comme ça, au réveil, de voir une armée à ses portes. Mais comme il savait qu'il était à côté d'un homme de foi, il a tiré par la manche et puis il a dit, mais mon Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Et Élisée, qui était un homme de foi et qui voyait les choses qu'on ne voit pas, lui a dit, voilà, Père Céleste, Seigneur Dieu, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Il y a une quarantaine d'années, peut-être plus, Billy Graham avait écrit un livre qui s'appelait « Un monde en flammes ». Je crois que je l'ai encore à la maison. Depuis 40 ans, ça n'a pas trop changé. Le monde est toujours en flammes. Et nous, qu'est-ce que nous voyons? La France va traverser une période électorale jusque juin. Qu'est-ce que l'on voit? Alors, je ne sais pas si on va trouver un homme de foi à côté de soi, mais en tous les cas, on peut demander à Dieu de nous ouvrir les yeux sur ce qui est une réalité spirituelle qui est bien plus intéressante et bien plus vraie que les réalités terrestres. Quelle est ma vision? Est-ce qu'elle est terrestre? Elle est, on dit, au ras des pâquerettes. J'en ai dans mon jardin, je ne les ai pas coupés, je tourne autour avec la tondeuse. C'est quand même sympa de les cueillir. Mais quelle est ma vision du monde ce matin? Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Élisée transportait, avait avec lui la gloire de Dieu. Et ce serviteur a eu accès pendant un temps à quelque chose d'extraordinaire. Et à l'époque, il n'est pas arrivé malheur à Israël. Dieu a sauvé Israël. La question que je vais vous laisser ce matin, sous forme de question, on aurait souvent tendance à dire que l'adversaire, le diable, l'opposant, il est puissant. Mais après, retenez bien la phrase, Dieu est tout puissant. Voilà. Et si on peut dire simplement à l'adversaire, tu es simplement puissant. Mais Dieu est tout puissant. Alors Jean-Marc a remarqué que j'avais emmené un livre. C'est une comparaison entre la vie de Luther et Calvin, contraste et ressemblance. J'aimerais juste vous lire une prière de Martin Luther. Vous savez que c'est un homme qui, en son temps, a affronté le pape. Je ne sais pas combien il avait de division, mais à l'époque, il avait un petit peu de puissance. Et il a affronté l'empereur de tout ce centre-Europe. Je vous lis juste un petit texte et puis sa prière. Luther, lors de sa comparution à Worms, devant les grands de l'Empire, en avril 1521, avait paru tout d'abord hésitant et intimidé, demandant un délai de réflexion de 24 heures. Et j'ai une petite note, sous la pression de ses conseillers politiques qui voulaient tenter de trouver un compromis avec l'empereur. Le lendemain, pourtant, il se tint devant ses juges, ferme, comme un roc dans son refus de renier ses convictions fondées sur la parole de Dieu. Dans la nuit qui sépare ces deux comparutions, il a connu un combat ardent, dans une prière mise par écrit qu'on ne peut pas lire sans émotion, sachant aussi qu'elle a été pleinement exaucée. Mieux qu'un exposé théorique, elle illustre ce que signifiait la prière pour Martin Luther. On dit que cette nuit-là, dans son bureau, il y a un moment donné, la pression était tellement forte qu'il a pris un encrier et qu'il l'a jeté envers l'adversaire. Voilà, en lui disant, voilà, éloigne-toi de moi, loin de moi. Je vous lis cette prière, parce que j'en ai trouvé, elle est citée dans ce livre. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, quelle chose c'est donc que le monde, comme il force les lèvres des hommes, comme leur confiance en Dieu est petite, que la chair est faible, que le diable est puissant. Combien il travaille par ses apôtres et les sages de ce monde. Le monde marche dans le large chemin où s'en vont les impies. Et il n'a Dieu que pour ce qui est grand, puissant, magnifique. Si je regarde de ce côté, c'en est fait de moi. Ah Dieu, ah Dieu, ô mon Dieu, ô mon Dieu, tiens-toi près de moi, contre la raison et la sagesse du monde. Fais-le seul, tu dois le faire. Ce n'est pas ma cause. C'est la tienne. Qu'est-ce que ma personne ici? Qu'ai-je à faire, moi, avec ces grands seigneurs du monde? Que n'ai-je aussi des jours tranquilles, sans trouble? C'est ta cause, Seigneur, ta cause juste, éternelle. Soutiens-moi, ô Dieu fidèle, éternel. Je ne m'appuie sur aucun homme. Tout cela n'est que vanité. Tout ce qui est cher et tombe. Ô Dieu, n'entends-tu pas? Mon Dieu, es-tu mort? Non, tu ne peux pas mourir. Tu te caches seulement. Ne m'as-tu pas choisi? N'est-il pas vrai que jamais de ma vie je n'aurais pensé à m'élever contre de si puissants seigneurs? Ah Dieu! Viens à mon aide, au nom de ton cher Fils Jésus-Christ, ma force, mon bouclier. Fortifie-moi par ton Saint-Esprit. Seigneur, où te tiens-tu? Mon Dieu, où es-tu? Viens, viens. Je suis prêt à y laisser ma vie, comme un agneau, car cette cause est juste. C'est la tienne, je ne veux pas me séparer de toi pour l'éternité. Que cela soit décidé en ton nom. Le monde ne pourra pourtant forcer ma conscience. quand même il serait plein de diable. Si mon corps, ta création, l'ouvrage de tes mains, doit tomber en ruine, mon âme est à toi. Elle t'appartient. Elle demeure éternellement à toi. Amen. Ô Dieu, soutiens-moi. Amen. Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu ou lu cette prière. On sent qu'il y a un combat. Je ne sais pas quelle sera ma position aujourd'hui. Si je devais avoir contre moi le pape, les grands de ce monde, j'ose même pas y penser. Cet homme était un simple moine, et puis il dit dans un court instant, « J'aurais préféré vivre autre chose. Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que c'est à moi d'aller dans cette fournaise ?» Mais cet homme n'a jamais plié face à la parole de Dieu. Et il a dit cette phrase à cette diète de Worms, devant ses juges, devant ses accusateurs, « Si vous pouvez me convaincre par l'Écriture que la justification seule n'est qu'en Christ, je me rétracte, je reviens en arrière. » Et finalement, personne, comme on dit, ne put lui boucher un coin. Mais cet homme est entré dans un combat frontal et derrière le pape, derrière l'empereur. Il dit, il y a un ennemi qui est puissant. Et il fait une prière pleine de grâce, pleine d'humilité. Et il dit à Dieu, c'est, voilà, toi seul, toi seul. Élie, Élisée, ces hommes, voilà, qui nous racontent les choses qu'ils ont vécues avec Dieu, ont aussi connu des combats extraordinaires. Il y en a un qui s'est battu contre les 450 prophètes de Baal. Il avait le roi, la reine, il avait tout le monde contre lui. Dieu lui a donné raison. Tout de suite après, il a été nommé Premier ministre. Il s'est enfui en pleine déprime. Il est parti 40 jours au désert et puis ça a été un temps difficile. Et Dieu a dû venir vers lui et puis lui remonter le moral. Je ne sais pas ce qu'a vécu Luther après ces quelques jours à la diète de Worms, mais voilà, Dieu a élevé cet homme. L'adversaire, l'ennemi, l'opposant, il nous a dit, Satan, le diable, il est simplement puissant. Notre Dieu est tout puissant. Je vous ai lu ce texte, voilà. Nous avons des difficultés dans la vie. Nos difficultés sont-elles du même ordre ou à la même hauteur que ce que ces hommes ont vécu ? Je ne sais pas, parfois ça nous aide peut-être à nous situer. Jean-Marc le disait tout à l'heure, la face de l'Europe et du monde a été changée en 1521 parce que cet homme s'est réfugié en Dieu et a refusé de courber la tête, de courber l'échine, de courber le dos, de se mettre à genoux devant un pape et devant un empereur. Même ses conseillers lui ont dit, allez, on prend un temps de réflexion, puis on va essayer de négocier. On aimerait tous peut-être être des hommes, des femmes de négociation, de paix. Et puis, il y a des moments où la confrontation, elle est frontale. Elle est frontale. On lit un texte dans la première épître de Pierre. Je prendrai que quelques textes, il y en aurait tellement à lire. 1 Pierre, chapitre 5, les versets 8 à 9, ils sont connus. Hein. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La pression était tellement forte qu'en pleine nuit, Luther a pris un encrier et il l'a balancé à la face de l'ennemi. Je pense que là, il a verrouillé une position spirituelle en disant non. Rappelez-vous Jésus avec Pierre, qui était un de ses amis, un de ses disciples. Oh, Seigneur Jésus, tu peux éviter la croix. Faire un pas de côté, on peut négocier. Je ne sais pas avec qui il fallait négocier. Avec Caïphe, le souverain sacrificateur, avec Pilate, c'est avec qui qu'on négocie. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées me sont un scandale. Pierre, quelques heures plus tard, dans la cour, il dit, mais toi aussi, t'es avec eux. Je ne connais pas. Une fois, deux fois, trois fois. Et il dit, après, il pleura amèrement. Quand il s'est rendu compte que dans la confrontation, lui, il avait été à côté. La rédemption, la délivrance, c'est que Pierre va pouvoir se rattraper. Il va être après l'apôtre de la Pentecôte. Lors de son premier discours public, 3000 conversions. Et il va continuer son bonhomme de chemin. Mourra martyr, il donnera sa vie. On a lu dans cette prière que Luther, là, en esprit, a fait don de sa vie au Christ. Quelle que soit la vie de mon corps, il t'appartient, je te le donne. Là, c'est quand vous êtes devant un pape, des empereurs ou un représentant. Pas facile, c'est pas évident. Chacun a ses combats dans sa vie. L'apôtre Jean aura été l'apôtre de la victoire de Jésus. On lit dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, verset 31. L'apôtre Jean était confronté au gnosticisme. À l'époque, les gens avaient inventé toutes sortes d'initiations et de moyens pour venir à Dieu, détournés. Jean chapitre 12, verset 31. Verset 30, Jésus dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Jésus, en esprit, a vu la victoire. Quelle est notre vision ce matin du monde? Beaucoup de problèmes dans le monde. Si on écoute les médias, si on lit les nouvelles, si on écoute la radio, au bout de quelques semaines, il y a de quoi, comme on dit, prendre un coup de marteau et de se dire, mais comment on s'en sort? Je ne sais pas comment on s'en sort, mais ce que je sais, c'est que derrière les princes de ce monde, il y a les armées de Dieu. Josué, le disciple de Moïse, a fait une très belle rencontre. Après s'être fortifié, un matin il s'est levé et puis il avait à ses côtés, il nous a dit, le chef de l'armée de l'Éternel, qui lui a dit, allez, Jéricho est devant, on y va, voilà la stratégie. Est-ce que nous avons vu, rencontré le chef de l'armée de l'Éternel, le Christ Jésus, celui qui règne aujourd'hui? Derrière les nations de ce monde, il y a un Dieu ressuscité d'entre les morts. Un jour il se lèvera et c'est lui qui aura le dernier mot. Mais je sais déjà aujourd'hui qu'il a le dernier mot. On est dans la première épître de Jean, 1 Jean 3, les versets 8 à 10. Si vous avez le courage ou l'hardiesse de lire les trois épîtres de Jean à suivre. Elles sont petites. Le matin, comme ça, avant de partir au travail. C'est vraiment des épîtres de victoire. 1 Jean 3, 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu, la parole de Dieu demeure en lui, qu'il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Parfois, les chrétiens le voient un petit peu partout, même là où il n'est pas. Il pourrait porter plainte pour, voilà, pour tout ce qu'on lui met sur le dos, parfois qui relève simplement de notre propre responsabilité, de notre propre péché. Avant que le diable se mêle de nos affaires, on a déjà parfois suffisamment à faire avec les nôtres. Dans cette prière, Luther dit clairement où il est, quel est son choix, quelle est sa position. Il dit le monde, voilà, suit les grands de ce monde. Voilà, Seigneur, protège-moi, retire-moi. Il y a une séparation entre le royaume du Dieu Tout-Puissant et le royaume de l'adversaire. Et régulièrement, nous sommes appelés à faire un choix. Seigneur, quelle que soit la situation des hommes, des grands de ce monde, des nations, c'est à toi que je veux regarder, c'est toi que je veux choisir. La victoire t'appartient, même si je ne la vois pas encore, même si tout n'est pas encore manifesté. Ce que tu manifestes, ce que tu dis me suffit pour que je continue à te choisir. Le pouvoir de l'ennemi est limité. Il ne peut agir que dans le cadre que Dieu, que dans la liberté que Dieu lui a donnée. Rappelez-vous l'histoire de Job. Il y a le diable qui va voir Dieu, qui fait tac tac. Ouah, t'as vu, il y a un type là, Job. Ouah, il est super. Hein. Mais je suis sûr que si je le touche un peu, si je le titille, est-ce qu'il va tenir bon? Est-ce que Luther va tenir bon? Est-ce qu'il va négocier? Et Dieu dit à l'ennemi, voilà le cadre dans lequel tu vas toucher la vie de Job. Le cadre est défini. Le diable n'est pas tout puissant. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il agit dans un cadre contraint, restreint. Sa présence est limitée. Il dépend de ses nombreux collaborateurs qui ne sont pas mieux que lui. Il nous a dit que parfois, son royaume est un royaume divisé. Ils sont tous tellement méchants qu'ils s'entretuent. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Derrière tous ces groupes terroristes, les gens se mordent, se bagarrent entre eux. Son savoir est limité. Il ne comprend pas tout, il ne sait pas tout. Et il ne comprend pas comment Dieu agit dans le monde. Comment est-ce que Dieu renverse les situations? Il ne sait pas ce que c'est que l'amour. C'est ce qu'on y a déjà pensé. L'adversaire, le diable, l'opposant à Dieu, ne sait pas ce que c'est que d'aimer. Il ne sait pas ce que c'est que la paix. Il ne sait pas ce que c'est que la justice de Dieu. Il n'y comprend rien. Et sa stratégie, il y a un moment donné, il se prend les pieds dans le tapis. Parce qu'il ne peut pas concevoir quels sont les plans, les desseins, les buts de Dieu depuis l'alpha jusqu'à l'oméga, depuis le commencement jusqu'à la fin. Il est limité. L'œuvre de la croix l'a pris à contre-pied, à contre-temps. Il y a un jour où il a dit « Ouais, super !» Le Fils de Dieu que j'avais essayé d'attirer en dehors du chemin de Dieu, là je l'ai coincé, je l'ai eu. Crucifiez-le, crucifie-le. Jésus sur la croix, il nous a dit qu'il rendit l'esprit, il remit son esprit à Dieu. Ce n'est pas la croix qui l'a tué, il a remis sa vie à Dieu. Il a été mis au tombeau. Le troisième jour, il l'a ressuscité d'entre les morts. Puis là, l'ennemi, il est perdu. Sa stratégie a échoué. La stratégie de l'ennemi est un échec. Depuis 2000 ans, il est défait. Là, il y a eu un moment historique, politique, spirituel, tout ce que vous voulez, on peut le mettre dedans. La face du monde a été changée lorsque Jésus a été cloué sur la croix et quand il est ressuscité d'entre les morts 3 jours après. On lit dans les Actes au chapitre 26. Acte 26, les versets 17 à 18. On lit au verset 15. « Je répondis, qui es-tu, Seigneur ? » Le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Lève-toi, tiens-toi sur tes pieds. Je te suis apparu pour t'établir ministre, témoin des choses que tu as vues, de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Paul était un meurtrier, il mettait les chrétiens en prison. Il a eu une révélation du Christ. Je vais dire là aussi un peu, la face du monde a été changée. Tous les écrits de Paul, toutes les sortes des églises occidentales, viennent de cet homme. Simplement parce que Dieu, à un moment donné, a pris cet homme. Puis lui a dit, je vais t'envoyer pour être témoin de ce que tu connais, de ce que tu sais, mais de tout ce que je vais encore te montrer. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Vous vous rappelez la prière d'Élisée avec son serviteur? Ouvre ses yeux, Seigneur, pour qu'il voie. Quelle est notre vision de Dieu, de sa puissance ce matin? Est-ce que Dieu est encore celui qui est le Tout-Puissant? Celui qui nous fait passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la toute-puissance de Dieu. Gravez ça ce matin sur vos fronts et sur vos cœurs. L'ennemi est puissant, mais Dieu est tout-puissant. Là aussi, c'est une certitude, c'est une révélation. sa puissance, sa ruse, il a toujours les mêmes moyens classiques. Quand on les connaît, on peut aussi les appréhender, les deviner, les contrer. Il est classique dans ses ruses, dans ses moyens de séduction. Incrédulité. Ainsi, de toutes sortes de manières dans le monde, quand il peut détourner les gens de Dieu, endurcissement, aveuglement. Le pharaon a eu, j'allais dire, 10 marches d'escalier descendantes. 10 fois, Moïse lui a dit, laisse aller le peuple de Dieu, rends-toi à Dieu. Ouais, je vais le faire. Et puis, il s'est fortifié dans l'incrédulité, dans l'endurcissement. L'idolâtrie, l'humanisme, l'homme est au centre de la création. Encore plus aujourd'hui qu'hier. Tous les péchés d'abomination, occultisme, sexualité, pouvoir, argent, meurtre, superstition, etc. La liste est longue. Que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu, qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. Nous sommes appelés héritiers du Dieu, héritiers du Dieu Tout-Puissant. Juste encore un mot, il a deux techniques importantes. Soit il met le frein à main, et puis il essaye de bloquer, d'arrêter notre vie spirituelle. Toutes sortes de techniques à mettre des freins. S'il ne peut pas freiner, il appuie sur l'accélérateur. Il dit « va plus vite ». Il pousse. Il nous pousse à commettre, à dérailler, à choisir par nous-mêmes. À un moment donné, Abraham était en attente d'une postérité. Et comme l'ennemi ne pouvait pas le freiner, il l'a poussé. Et combien d'hommes de Dieu, voilà, il a essayé ces tactiques, soit de freiner, soit de pousser. Il n'est pas tout puissant. Il est simplement puissant. Il est limité. Il agit dans un cadre contraint, restreint. Je vous laisse avec ces paroles. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Mais voilà, déjà, l'essentiel, c'est de le garder et de le laisser à la place qui est la sienne. Pas survaloriser, C'est Jésus qui est magnifique. Qui est élevé. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta révélation dans nos vies. Merci de nous ouvrir les yeux sur les ruses de l'ennemi, moyen de séduction, mais aussi et surtout sur ta toute-puissance. Tu sais tout, tu connais tout. Tu es présent partout, en tout, en tous. Et c'est en toi que nous voulons placer notre confiance. Merci pour tous ces exemples de tous ces hommes de Dieu passés. Merci pour Luther, là, dont nous fêtons cette année le 500e anniversaire. Merci parce que de tels hommes t'ont choisi, ne t'ont pas renié, sont restés dans la fermeté. Aide-nous ce matin, chacun, à voir quelle est ta toute-puissance dans ce monde, dans nos vies, au milieu des nations. Nous voulons nous réjouir pour ton espérance, pour ton amour, et parce que tu reviens, et parce que, voilà, bientôt, tout œil te verra, et nous, en esprit, nous t'avons déjà vu, nous te connaissons déjà. Seigneur, merci de sonder nos cœurs et merci de nous aider chacun. Continuer de te choisir, proclamer ta toute-puissance. Tu es ressuscité d'entre les morts. Tu es à la droite du Père et tu entres et tu vas entrer dans ton règne. Merci d'étendre ton royaume au milieu de nous. Amen.